Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Yann Kefelec est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Quelque chose me dit qu'il va être question de Bretagne cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Il va être question de Bretagne et de Bretons. À quelques semaines de la COP 21, Europe 1 consacre, vous le savez, la journée aux questions climatiques et nous avons transporté la matinale ce matin à l'île de Sein. Eh bien, en compagnie de Yann, nous allons parler non seulement de l'île de Sein, mais de toutes les îles bretonnes.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Loïc sur l'origine des aimants et de leur utilisation.
Voilà une bonne question, cher Loïc. Qui dit aimant dit boussole. Pour le moment, nous mettons le cap plein ouest en direction de l'île de Sein et de son monument majeur, le célèbre phare d'Armen.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Vous voyez où se situe l'île de Sein, à l'extrême ouest, tout à fait au bout, à la pointe de la Bretagne, au sud de l'île d'Ouessant. C'est cette petite langue de terre qui, pendant si longtemps, a fait peur aux marins. Eh bien, il est bien là, comme une brindille blanche soumise aux caprices d'un océan prompt à la colère. Il est loin de tout, il est loin de tous, le phare d'Armen, et il résiste fièrement, mystérieusement même, aux assauts des vagues qui le frappent et qui le frappent sans ménagement depuis maintenant 130 ans. Alors que l'océan lui tresse des couronnes d'écume, lui, fidèle, courageux si je puis dire, poursuit son travail qui est d'illuminer les flots, de guider les marins loin des dangers qui les guettent dans cette zone donc de l'île de Sein. On est maintenant à l'ouest de l'île de Sein. Avec ses 34,5 mètres de hauteur, le phare d'Armen n'est ni le plus grand, ni le plus imposant des phares. Mais il est peut-être celui dont l'existence semble le plus miraculeuse, tant il paraît ne s'accrocher à rien, hissé sur un monticule de roches quasiment invisible. À le voir de cette façon, on ne peut pas en douter, sa construction a été une aventure au goût de sel, une aventure à l'arrière-goût d'amertume. Tout commence par un terrible naufrage, en septembre 1859, une belle frégate impériale, elle s'appelle Sané, va sombrer près de l'île de Sein, sur cette langue de terre qui est à quelques kilomètres de la pointe du Raz. Ce n'est pas la première tragédie de ce type en ces lieux extrêmement dangereux, loin de là. Les courants sont d'une puissance impressionnante, les vagues se lèvent ici avec une brusquerie qui peut surprendre le meilleur marin. Et puis il y a ces roches dissimulées par la houle et qui sont là à attendre les embarcations pour mieux les déchiqueter. Il y a un proverbe local qui dit « qui voit Sein, voit sa fin ». Le naufrage du Sané marque les esprits à l'époque et on se dit qu'il est grand temps de sécuriser cette zone une fois pour toutes. Alors, on va s'y employer. Voilà ce que Henri Kefelec, le père de Yann, écrit dans « Un feu s'allume sur la mer ». Maintenant que les bateaux de guerre, eux aussi, naufrageaient sur la chaussée de Sein, on avait décrété qu'elle ne pouvait plus rester noire. Dans une société qui prend confiance dans les techniques qu'elle est en train de développer, c'est qu'on est dans cette période du Second Empire où tout paraît possible face aux tragédies, de plus en plus capables de proposer autre chose qu'une digne et stoïque acceptation des éléments, on se dit qu'on va pouvoir monter un phare, qu'on va pouvoir faire quelque chose. Les autorités civiles vont décider la construction de deux phares de part et d'autre de l'île de Sein. Problème, on doute qu'aucune roche soit assez grande pour accueillir un tel édifice dans la chaussée de Sein. Pour approfondir la réflexion, un groupe d'études va se mettre en place en 1860. Alors il y a dans ce groupe des ingénieurs, des marins bien entendu, mais ils se séparent en laissant des conclusions apparemment peu encourageantes et sans avoir vraiment arrêté de décision. Le dossier n'est relancé que 5 ans plus tard par l'inspecteur général des ponts et chaussées et cette fois, on décide d'aller voir sur place, dans la partie occidentale de la chaussée de Sein plus particulièrement, c'est un affleurement dénommé Armen qui d'un seul coup se met à intéresser les ingénieurs parce qu'on se dit que ça pourrait bien être là. On est déjà en novembre et l'entreprise est des plus périlleuses. En cette saison, en effet, l'océan laisse facilement s'exprimer son sombre tempérament. La petite équipée avec à son bord un ingénieur qui s'appelle Joly. Cette petite équipée tente d'approcher Darmen, seulement il y a ces vagues tellement violentes qui l'en empêchent. Le petit groupe est gêné par le constant nuage d'écume qui recouvre la zone. On peine à apercevoir le rocher. Il faut même rebrousser chemin. Seulement, l'ingénieur Joly est tenace. Il ne se décourage pas. Il va poursuivre son enquête en interrogeant les habitants de l'île dont les hommes, rompus aux humeurs de l'océan, connaissent bien Darmen. Alors, à sa commission, on va associer deux de ces marins. Joly mène à bien une étude minutieuse du rocher, des conditions à sa proximité, les courants, les profondeurs, le jeu des marées et des saisons n'ont bientôt aucun secret pour lui. Tel fut le mérite de l'ingénieur Joly, écrit Louis Le Quinf. Il se comporta face à la roche d'Armen comme un chef d'armée devant une place forte ennemie réputée imprenable. Il sut se faire une image très précise de l'objectif à conquérir, apprécier sa résistance, déterminer ses points faibles, choisir les itinéraires pour s'en approcher, évaluer les risques et surtout, il sut être patient et ne pas forcer la victoire. Alors, vous savez comment on procède dans ce genre de cas? On avance pas à pas, étape par étape, les petites réussites s'enchaînent et au bout de quelques mois, Joly parvient quand même à poser le pied sur le rocher. Il est très persévérant, hein, cet homme-là. Il convainc des hommes de l'île de Saint, qui au départ étaient tout à fait rétifs, de travailler sur son futur chantier. Ça n'est pas simple, puisque le travail un peu fou qu'il propose ne peut s'effectuer que par intermittence. En 1867, enfin, à la plus grande satisfaction de l'ingénieur, le chantier du phare d'Armen peut commencer.
Et le tonnerre, extrait de la symphonie pastorale de Beethoven. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, nous retournons sur l'île de Saint à la découverte de son célèbre phare d'Armen.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les îles bretonnes sont à l'honneur cet après-midi sur Europe 1. Avec vous, Franck Ferrand, nous nous arrêtons sur l'île de Saint et l'histoire de son célèbre phare d'Armen, la construction débute.
On ne peut pas dire que ce soit l'enthousiasme, vous savez, autour de l'ingénieur Joly. On se dit que ça va être très difficile d'implanter un phare dans des conditions aussi compliquées. Beaucoup doutent même qu'on puisse effectuer les premiers forages dans la roche d'Armen. Et pourtant, c'est indispensable si l'on veut installer un système d'accostage. Que la houle soudain se soulève, qu'un homme soit avalé par l'océan ou s'écrase contre la roche, et le projet pourrait connaître une fin précoce. Mais il faut néanmoins persévérer, il faut vaincre la peur, se lancer. Bientôt, un bateau quitte Saint et disparaît vers son objectif, périlleux objectif. Dès que les travailleurs parviennent à s'approcher du rocher, ils guettent le bon moment et à la moindre occasion, ils s'élancent vaillamment. Un ingénieur qui est cité par Louis Le Quinf raconte « Dès qu'il y avait chance d'accoster, deux hommes descendaient sur la roche, munis de leur ceinture de sauvetage, se couchaient sur elle, s'y cramponnant d'une main, tenant de l'autre un marteau et travaillant avec une activité fébrile, incessamment couverts par la lame qui déferlait par-dessus leur tête. Si l'un d'entre eux était entraîné par la force du courant, sa ceinture le soutenait et une embarcation allait le repêcher pour le ramener au travail. » Ça n'est plus un chantier, c'est un véritable exploit sportif dont on est en train de parler. Ça va se répéter tout ça encore et encore au cours des rares journées où l'on peut se rendre sur Armen, hein, puisque la plupart du temps on peut même pas y aller. bien des fois, il faut se résoudre à renoncer et repartir la mort dans l'âme. Pour vous donner une idée, lors de la campagne de 1867, 7 accostages seulement ont été possibles et en travail effectif, on compte une petite dizaine d'heures. C'est tout simplement incroyable. Il faut prendre des risques énormes. On peut craindre que le moindre incident tourne à la tragédie et c'est un combat qui s'engage entre eux. La prudence et l'audace, toutes deux nécessaires évidemment pour arriver à bien. Malgré le rythme très lent de ces travaux, on peut dire que le chantier avance comme il peut. En 68, on décompte 18 heures de travail. En 69, on se satisfait de parvenir à rester même un jour presque 2 heures sur le rocher. Vous imaginez, les travailleurs prennent peu à peu de l'assurance, ils commencent à connaître les lieux et puis ils se mettent vraiment à lancer un travail de maçonnerie sous ce ciel changeant de la Bretagne. On peut dire que peu à peu, les idées prennent forme. L'avancée des travaux va être ralentie par la guerre de 1870, ça c'est bien évident. L'ingénieur Joly a quitté le chantier depuis quelques années déjà, au moment où l'on reprend le flambeau. En 1875, on parvient à cumuler 111 heures de travail, 261 heures en 1877. Vous voyez que là maintenant, ça y est, on a quelque part domestiqué ce petit plateau rocheux d'Armène. Et là, en 77, on a déjà une tour qui s'élève à plus de 15 mètres au-dessus de ses fondations. Alors, même si des treuils sont emportés par la mer, même si toutes sortes de difficultés provoquent des retards, les hommes sont là comme des fourmis qui font face à l'océan, qui le bravent à chaque fois qu'ils le peuvent. Et à chaque année, on voit s'élever un peu plus l'édifice. Une autre épreuve revient encore et encore, c'est celle de la saison froide, hein, qui, en même temps que ces redoutables vents, apporte de terribles doutes. Voilà ce qu'écrit Henri Kefelec dans « Un feu s'allume sur la mer ». Et la campagne finie, et la crainte cohabitait avec l'espace au long de ces mois d'arrière-automne et de plein hiver, où la mer, que ne sillonnaient plus les barques, demeurait seule avec sa puissance profonde. Le chantier abandonné au milieu de la mer comme un arbre nu au centre d'une plaine désertique recevait des horions, des coups de bélier formidables et sans nombre, seconde après seconde, de merveilleuses occasions de lâcheté s'offraient à sa faiblesse originelle. Mais il tient bon, ce phare en construction. Il se révèle aussi coriace que les hommes qui sont en train de le bâtir. Et on le voit grandir, petit à petit, j'ai envie de dire, mètre par mètre, il conquiert peu à peu sa part de ciel. Bientôt, les 20 mètres sont franchis. Ça ne veut pas dire que le travail soit plus facile. Les conditions, vous savez, sont toujours les mêmes et le découragement revient constamment, quasiment au rythme des marées. Mais enfin, ça y est, on va franchir les 30 mètres, on approche du but et à l'été 1881, ça y est, vient enfin le temps des finitions. Mais on va le voir, même si l'on arrive à quelque chose, on ne peut pas dire pour autant que ce soit un véritable triomphe, car au bout du chantier, les doutes qui ont accompagné la construction de l'édifice ne sont pas oubliés. Ce phare, qui maintenant va être malmené constamment par l'océan, ce phare a-t-il été conçu de bonne manière? Est-ce qu'il est assez solide? Et maintenant qu'on l'a construit, est-ce qu'on va pouvoir le maintenir? Résistera-t-il longtemps, ce phare d'Armène?
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
La construction a été longue, mais aujourd'hui, il est majeur et célèbre. Ce phare en pleine mer à l'ouest de la Bretagne, c'est le phare d'Armène que vous nous faites découvrir cet après-midi, Franck.
La date, c'est celle-ci, le 31 août 1881. Si vous faites un rapide calcul, vous voyez que ça fait 14 années de chantier pour accomplir l'exploit, pour parvenir à la réalisation finale de ce phare d'Armène qui donc est inauguré le 31 août 1881. Un aboutissement qui dans l'esprit de beaucoup n'en est pas un, puisque on se dit, et c'est l'avis le plus répandu, que le pire est à venir. Louis Le Quinf le souligne. Au lieu de triompher, les constructeurs sont comme effrayés de leur victoire. Pendant des années, ils vont être littéralement hantés par la crainte de voir la tour d'Armène emportée par la mer. On s'inquiète surtout du diamètre trop réduit de la tour par rapport à sa hauteur, 7,20 m seulement pour 34,50 m. C'est vrai que le rapport est très faible. Alors on lance des enquêtes et les questions s'ajoutent aux questions. Est-ce que le ciment qu'on a choisi va résister? Est-ce qu'il a été choisi suffisamment ferme? L'océan ne grignote-t-il pas peu à peu la base même de l'édifice? Parce que c'est une chose que le phare soit solide, c'en est une autre que le socle sur lequel on l'a bâti le soit aussi. Finalement, plusieurs campagnes de renforcement sont lancées. Des pans entiers de cimenterie sont refaits. Une sorte d'enveloppe protectrice va être créée à la base du phare. C'est seulement en 1897, nous dit Louis Le Quinf, 32 ans après la première enquête de l'ingénieur Joly, qu'on put considérer la tour d'Armène comme véritablement achevée, c'est-à-dire à l'abri de tout danger. Le phare est maintenant protégé. Mais quoi dire de ces gardiens? Est-ce qu'ils sont, eux, en sécurité? Est-ce qu'ils vont pouvoir supporter des conditions de vie dont on peut dire qu'elles ne sont pas difficiles? Elles sont tout simplement effroyables. Il n'est pas rare, notamment, que les intempéries empêchent les relèves et les réapprovisionnements, et ce, pendant plusieurs jours. Il faut s'habituer, lorsqu'on est sur le phare d'Armène, à vivre dans des conditions d'extrême survie. Ça peut être terrible, ça peut durer plusieurs semaines, la coupure avec le monde et avec l'île, d'abord, puis le continent. Surtout, les gardiens, qui sont en quelque sorte les seuls cœurs battants dans ce milieu pour le moins inhospitalier, les gardiens font face à des dangers permanents. Et malheureusement, la preuve cruelle en est apportée le 15 janvier 1921, puisque ce jour-là, le gardien-chef du phare, qui se trouve sur la plateforme, est littéralement emporté par l'océan. Presque 3 ans plus tard, c'est une autre épreuve terrible qui marque cette histoire du phare d'Armène. La tempête est là, qui isole le phare pendant plusieurs semaines. Les vivres deviennent vraiment très chiches, elles menacent de s'épuiser tout à fait. Et l'un des 3 occupants, qui est un mutilé de guerre, comme beaucoup de gardiens de phare à l'époque, l'un des 3 occupants tombe malade. Alors on lance l'alerte, bien entendu, seulement les conditions sont tellement mauvaises qu'on ne peut même pas arriver depuis l'île de Sein. On est là, on guette, on veille, on espère, et quand soudain un feu se déclare dans le phare, eh bien là, c'est la catastrophe. Rapidement, les gardiens réalisent que la situation est particulièrement grave, l'air devient irrespirable, il est impossible de descendre par l'escalier du phare. Alors, eh bien alors, dites-vous qu'on est en présence d'hommes qui sont très solides et dont les ressources ne s'épuisent pas facilement. Ils vont parvenir à l'aide d'un câble, à l'aide d'une potence métallique, comme le raconte Louis Le Quinf, ils vont arriver à descendre jusqu'à la plateforme du phare. Ils enfoncent alors la porte d'entrée et malgré la fournaise insupportable qui règne à l'intérieur, ils sont là armés de simples seaux. Ils vont parvenir au terme d'un terrible combat. Il faut monter vers le feu cette fois. Et il faut en réduire l'emprise, bien entendu. Armés de simples seaux, ils vont parvenir à éteindre l'incendie avant qu'il n'atteigne la cave à pétrole. Ça, si le feu était arrivé jusqu'à la cave à pétrole, c'était la fin, évidemment. Le courage de 3 hommes ce jour-là. Et quand je dis de 3 hommes, il y en a un qui est non seulement handicapé, mais malade. Ce courage épargne à Armène une tragique explosion. Les 3 héros, finalement, seront secourus. Et l'on peut dire que, avec eux, ce qui sera sauvé, c'est le rêve de l'ingénieur Joly. L'ingénieur Joly qui n'avait pas vu l'accomplissement de son projet. C'est donc grâce à ces 3 hommes que le phare d'Armène, ce fier édifice de la chaussée de Sein, est toujours debout de nos jours. Alors, vous imaginez bien que depuis, on a fait des travaux supplémentaires et que le phare aujourd'hui est automatisé. Il n'en reste pas moins un exemple extraordinaire de ce que peut produire la ténacité humaine quand elle est mise au défi d'éléments hostiles dans des lieux qui ressemblent tout simplement, j'allais dire au bout du monde, c'est pire que ça, qui ressemblent à une forme d'enfer. Bonjour Yann Kefelec.
Bonjour Franck Ferrand.
Vous connaissez cette histoire mieux que quiconque puisque c'est votre père qui l'a écrite.
Non mais vous l'avez très bien racontée, j'étais très heureux de la revivre en vous écoutant.
Alors grâce à vous, nous allons vivre un peu d'aventure bretonne maintenant. Nous allons parler non seulement de l'île de Sein, mais de toutes les îles de cette belle péninsule.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
À À l'occasion de la COP21 qui aura lieu dans quelques semaines, Europe 1 vous propose aujourd'hui une journée spéciale climat. Ce matin, Thomas Soto et son équipe étaient en direct de l'île de Sein. Et justement, Franck Ferrand, cet après-midi, vous avez décidé de nous faire découvrir l'île de Sein et les autres îles bretonnes avec votre invité Yann Kefelec, écrivain, prix Goncourt et auteur du dictionnaire amoureux de la Bretagne.
Alors Yann Kefelec, est-ce que vous l'avez vu vous-même, ce phare d'Armen? Est-ce que votre père vous y a emmené?
Mon père ne m'a jamais emmené là-bas. Je pense que j'ai lu son roman avant d'y aller moi-même physiquement au phare d'Armen. Ce qu'il faut, je pense, rappeler aux auditeurs, ou en tout cas leur indiquer, lorsque vous avez parlé d'enfer tout à l'heure au sujet du phare d'Armen, c'est exactement le terme qui convient, même si je n'ai jamais mis les pieds en enfer. En tout cas, on a vraiment le sentiment, lorsqu'on est à proximité du phare d'Armen, qu'une œuvre d'art a été bâtie en enfer, parce qu'il n'y a aucun doute, un phare, c'est d'abord une œuvre d'art, et elle appartient à la catégorie des œuvres d'art continuées, c'est-à-dire l'achèvement d'un phare n'est jamais terminé. C'est vrai du phare d'Armen, c'est vrai du phare de Kéréon à Ouessant, c'est vrai de tous les phares de pleine mer. C'est proprement effrayant lorsqu'on est à proximité du phare d'Armen. Ça l'est tellement d'ailleurs qu'il est interdit de s'en approcher et qu'il y a encore une balise un peu plus occidentale, une balise flottante qui prévient de la proximité du phare d'Armen et qui conseille aux navigateurs de passer son chemin un peu plus loin.
Ah oui, il y a ce proverbe hein, qui voit Sein voit sa fin. Alors le phare, il est lui tout à fait à l'extrême ouest, bien entendu. Depuis qu'il existe, on a quand même considérablement limité les dégâts, si je puis dire.
On a considérablement limité les dégâts. Il faut dire à cet égard que le service des phares et balises, qui est un service absolument remarquable du 19e siècle jusqu'à il n'y a pas très longtemps, laisse un peu à désirer aujourd'hui que les phares sont automatisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus entretenus par des gardiens, que la vigilance humaine n'est plus là également pour indiquer qu'un navire est éventuellement en perdition et que ces navires sont des trésors en péril, comme et le disait l'autre jour notre ami Stéphane Bern.
C'est exactement, c'est-à-dire que d'un côté, on voit depuis les bateaux, on voit le phare, mais maintenant, depuis le phare, on ne voit plus les bateaux qui éventuellement seraient en difficulté.
Ce qui était extrêmement rassurant pour les navigateurs, ils savaient très bien que non seulement le phare était une lumière, mais c'était un œil, que cet œil était relié à une intelligence et qu'on pouvait prévenir évidemment les sauveteurs.
Alors, ce phare, on a bien compris qu'il est bâti sur un petit plateau affleurant à l'ouest de l'île de Sein, qui elle-même...
Et de l'Europe.
Qui elle-même, voilà, j'allais dire, est à extrême ouest du Finistère, donc tout à fait, on est dans les terres les plus occidentales qui soient en Europe.
On est dans les terres les plus occidentales de l'Europe. Lorsqu'on traverse l'océan Atlantique, ce premier œil qui s'allume comme ça en pleine mer, celui du phare d'Armen, c'est celui qui indique la présence de l'Europe toute proche et dangereuse.
Alors cette île de Sein, c'est presque un mythe en quelque sorte. Hein. D'abord, elle-même a un relief extrêmement faible. Elle est rase, si je puis dire, au-dessus de l'eau. Hein.
C'est ça, vraiment. C'est exactement le mot qui convient. C'est un radeau de granit, longtemps considéré dans la mythologie celtique comme l'un des derniers vestiges de la ville d'Is. Cette île, quand on entend ce royaume avec le roi Gradelon et sa terrible fille, dont on ne sait absolument pas si elle a véritablement existé, mais on est sûr en tout cas que c'est la méchanceté féminine qui a été cause de son naufrage, et il semblerait que l'île de Sein soit l'un des derniers vestiges de ce royaume englouti.
Il y a quelque chose d'une Atlantide médiévale dans cette histoire.
Tout à fait, c'est exactement, c'est l'Atlantide à la bretonne.
C'est l'Atlantide à la bretonne, on aime bien l'expression. Ce qui est inouï, c'est que des gens vivent sur cet endroit. On pourrait imaginer que ce soit une île déserte quand même. Eh bien pas du tout, il y a plusieurs centaines, presque 300 personnes qui vivent sur l'île de Sein.
Et le tempérament des Iliens, comme il l'est que d'ailleurs partout en Bretagne, est déterminé par le relief sur lequel ils ont décidé de faire leur vie. C'est-à-dire les gens de l'île de Sein sont des gens particulièrement courageux, particulièrement taciturnes, particulièrement méfiants, extrêmement joyeux à partir du moment où on a réussi à conquérir leur confiance. Mais quand je dis courageux, ce n'est pas un vain mot. Il faut tout de même se rappeler que non seulement ce sont des gens de mer qui ont été capables de se porter au secours de tous ces navires en perdition, quitte à les piller d'ailleurs à l'occasion lorsqu'ils avaient mis à l'abri les vies humaines, mais ce sont également eux qui ont été les premiers à répondre le 22 juin 40 à l'appel du général de Gaulle.
Les fameux marins de l'île de Sein.
150, tous les hommes de l'île de Sein, à part le boulanger, le curé, le médecin, encouragés d'ailleurs par les femmes, parce que lorsqu'on parle des Iliens, il faut surtout parler des Iliennes. C'est la parité en Bretagne et particulièrement dans les îles. Et il n'y a pas un Ilien sans son Ilienne qui l'encourage à être un homme.
Donc en fait, quand on dit les marins de l'île de Sein, ils sont soutenus, pour ne pas dire poussés, par leurs propres épouses. C'est ce que vous nous dites.
Ouais, hein, ils sont poussés par leurs propres épouses qui bénéficient aussi de cette espèce d'aura des druidesses d'autrefois qui passaient pour vivre sur l'île des Sept Sommeils. C'est ainsi qu'on appelait jadis l'île de Sein, car évidemment cette île de Sein est entourée et magifiée par un certain nombre de légendes.
Alors, on ira tout à l'heure sur l'île beaucoup plus vaste qui se trouve au nord de l'île de Sein, c'est l'île de Ouessant. Alors celle-là, j'y ai séjourné, donc je la connais. Et effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a quand même l'impression d'être un peu au bout du monde, à l'extrême, extrême pointe de l'Europe. En tout cas, ça c'est une certitude et on en a le sentiment très net quand on est sur cette île d'Ouessant. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'aller voir les îles qui sont au sud de l'île de Sein. Et commençons par l'archipel des Glénans, Yann Kefelec.
Bon, cet archipel des Glénans. Encore une fois, aux auditeurs qui ne connaissent pas cet archipel, on ne peut que conseiller d'y aller le plus vite possible, car il y a un proverbe amusant en breton qui dit « La Polynésie et Tahiti sont les Glénans du pauvre ». Tellement les Glénans sont extraordinaires de couleurs et de coloris qui semblent des coloris tropicaux et d'une végétation qui n'a pas du tout l'air d'une végétation bretonne, avec des fonds parfaitement azuré et émeraude, oui, un sable quasiment farineux tant il est blanc.
Et comme ce sable est blanc, il donne à l'eau une couleur qui devient turquoise. Ça, c'est spectaculaire.
C'est spectaculaire.
Il y a quelque chose des Caraïbes un peu aussi.
Mais oui, des Caraïbes. En plus, il y a une espèce de diversité du relief qui est tout à fait exceptionnelle et que n'ont pas les autres îles du monde. C'est vraiment un archipel qu'il faut aller voir, dont la lumière est constamment modifiée par la marée elle-même, puisque la marée bouge tout le temps. Donc la lumière est comme atomisée par ce mouvement permanent et ascendant et descendant de la mer. C'est une réserve de homards absolument exceptionnel. Et bien sûr, c'est un centre nautique mythique créé par Philippe et Hélène Vianney à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, et ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs s'ils veulent aller dans l'archipel des Glénans, et notamment pour naviguer, c'est d'y aller l'été, hein, parce que l'hiver, c'est moins sympathique quand même.
L'hiver, c'est extrêmement sympathique, mais disons que c'est moins polynésien l'hiver.
Ça. C'est plus rude.
C'est plus rude.
C'est nettement plus breton d'un seul coup. Alors, on ne peut pas évoquer toutes les îles, mais j'aimerais qu'on s'attarde un instant peut-être, qu'on passe par l'île de Groix, il faut dire un mot.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure du proverbe « qui voit Sein voit sa fin ». C'est un proverbe qui existe pour toutes les îles de Bretagne. Donc, qui voit Ouessant voit son sang, qui voit Molène voit sa peine. Pour Groix, c'est un tout petit peu plus malin. On dit « qui voit Groix voit sa joie », mais on souligne « qui voit Groix perd son foie ». Parce que c'est une île où le marin breton, et d'ailleurs le plaisancier de passage, a la réputation de lever volontiers le coude à la santé de la beauté du monde.
Il y a sur l'île de Groix une plage particulière, puisque toutes les plages d'Europe sont des plages concaves, hein, c'est-à-dire qu'elles sont en arc de cercle. Et bien là, on a une plage convexe, comme on peut en trouver décidément aux Caraïbes aussi, hein, du reste. Hein.
C'est vrai, c'est un phénomène unique en Europe. C'est stupéfiant de beauté, parce que cette flèche de sable relativement large, qui s'enfonce profondément dans la mer, lui donne, comme vous l'avez souligné pour les Glénans, également des reflets turquoises. C'est extrêmement doux, ça absorbe très bien la chaleur et lorsque la fenêtre météo est clémente, on est particulièrement heureux de séjourner sur ce sable avec une impression très méridionale.
Alors on pourrait parler de l'île d'Ouat, évidemment, de l'île d'Ouédic qui a inspiré votre père du reste.
Mon père a été inspiré par toutes les îles, il faut dire qu'elles sont très inspirantes, mais alors l'île de Sis qui est extraordinaire, si vous avez Belle-Île où il fait chaud, Ouat où il fait encore plus chaud, Édic, ou alors on a véritablement des températures africaines et pas un arbre pour fournir de l'ombrage. Mais Édic est célèbre, hélas, aujourd'hui pour cette fameuse bataille navale des grands cardinaux où les Iliens des îles d'Ouat et les îles d'Édic purent assister à la défaite de l'escadre française face aux Anglais pendant la guerre de 7 ans, lorsque Louis XV lança une expédition navale qui tourna à sa confusion.
Alors on est là dans l'histoire, on revient à l'histoire et on va y rester à Belle-Île, dont vous venez de citer le nom. Tous ceux qui connaissent bien Quiberon, j'espère, connaissent Belle-Île. Il faut avoir le courage d'attendre le bateau pour y aller. Ça, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est une visite qu'on ne peut pas manquer.
On ne peut pas la manquer, d'abord parce que Belle-Île est une île de pleine mer. C'est-à-dire souvent, les îles bretonnes sont relativement proches de la côte.
Oui, c'est ça, oui.
Belle-Île, c'est une île qui se trouve à près de 30 km du continent. On a l'impression d'être sur un immense navire et on bénéficie à la fois d'une douceur continentale et en même temps de la force et du caractère impitoyable de l'océan avec des couchers de soleil qui sont des couchers de soleil que l'on peut voir d'un bateau lorsqu'on navigue en pleine mer. C'est-à-dire quand on est sur la côte sauvage de Belle-Île en mer au mois de juillet par beau temps, on n'en revient pas de pouvoir prendre un tel soleil dans les bras.
Ah oui, c'est éblouissant. Et puis il y a ces rias, hein, ces espèces de, comme des fjords, si l'on peut dire, qui entrent dans la terre même de Belle-Île.
Qui déjà avaient été repérés par les Gaulois, puisqu'il y a des ports gaulois. Il y a non seulement le camp de César, mais vous avez les deux ports gaulois de Sterwen et de Servraz, qui sont exactement ces fameux abers, c'est ainsi que l'on dit en Bretagne.
Avec une végétation très particulière à cet endroit. Des microclimats, il faut le dire.
C'est une succession de microclimats. Et en plus, ce sont des microclimats proprement tropicaux, puisqu'on trouve des figuiers à Belle-Île, il faut tout de même le faire, en Bretagne, du mimosa, du raisin. Il y a même eu une époque où l'île produisait un petit vin local, qui, ma foi, était extrêmement agréable. Donc c'est une île, c'est vraiment une île paradisiaque qui porte magnifiquement son nom de Belle-Île. Hélas, elle est victime de son succès.
Eh oui.
Et au mois d'août, il vaut mieux aller voir ailleurs.
Alors que tous ceux qui aiment, qui fréquentent, qui habitent d'autres îles du sud de la Bretagne nous excusent, parce que maintenant, ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, Yann Kefelec, c'est aller voir celle du nord. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. J'ai fait une petite sélection, un choix, c'était nécessaire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au large de la Bretagne, il y a l'île de Sein, mais aussi Ouessant, Molène, l'île aux Moines. Et c'est une balade sur ces îles bretonnes que nous faisons avec vous, Franck, et avec notre guide Yann Kefelec, écrivain, prix Goncourt et auteur du dictionnaire amoureux de la Bretagne.
Alors, repartons de notre île de Sein, évidemment. Est-ce que c'est l'île la plus à l'ouest, l'île de Sein?
Oui, c'est l'île la plus à l'ouest, concurrencée probablement par l'île de Lithierry devant la pointe Saint-Mathieu. Mais de même qu'on a fait du Cap Nord, la pointe la plus septentrionale de l'Europe, de la même manière, on a fait de la pointe du Raz, la pointe la plus occidentale, alors que la pointe Saint-Mathieu est encore un peu plus à l'ouest.
Et voilà. Et comment est-ce qu'on s'y rend? D'où faut-il partir pour aller à l'île de Sein? De Brest?
Ah non, 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 faut partir du port d'Audierne avec une petite vedette qui s'appelait, il n'y a pas si longtemps que ça, la Véléda, le nom d'une druidesse de l'île de Sein. Et si tout se passe bien, une heure et demie plus tard, on est à l'île de Sein.
Alors, je parlais tout à l'heure de cette île d'Ouessant, tout à fait extraordinaire, qui, elle, est quasiment un petit pays à elle toute seule, en fait.
L'île d'Ouessant, elle fait partie de
l'archipel. On repart vers le nord, là, je précise pour
nos
auditeurs.
On repart vers le nord, on est dans la plus grande île des îles dites du Ponant, le nord. À mon avis, c'est une appellation récente, parce que lorsque j'étais enfant, je n'ai jamais entendu parler des îles du Ponant.
Le Ponant, c'est le couchant, hein, c'est l'ouest, en fait.
Le Ponant, c'est le nord, c'est le nord-ouest.
Nord-ouest,
donc,
voilà.
Le Ponant, et donc l'île Molène a donné son nom à cet archipel, l'archipel Molène, alors que Ouessant est une île bien plus vaste que l'île Molène, séparée de l'île Molène par un courant qui est l'un des plus puissants d'Europe, le courant du Framver, qui lui aussi peut se flatter d'avoir causé un certain nombre de naufrages et d'avoir mérité à lui seul la construction du phare de Kéréon, qui est probablement, c'est une sorte d'habitation versaillaise en enfer, car pour désennuyer le gardien de phare, on lui avait mis à sa disposition toutes sortes de marqueterie et de boiseries qu'il devait encaustiquer à longueur de journée.
Je me rappelle sur l'île d'Ouessant avoir fait une veillée extraordinaire dans une maison traditionnelle dont les cloisons sont composées par les lits mêmes, les lits bretons fermés.
Les
lits clos. C'est tout à fait magique parce qu'on est replongé là dans la nuit des temps. Il y a un sens des traditions très développé à Ouessant.
Oui, et en plus, ce sont des îles qui ont bénéficié du progrès technique relativement tard. Comme à Édic, par exemple, l'électricité n'est arrivée qu'en 1953, ce qui est tout de même relativement tard. Et même si c'est pas 63, je peux me tromper. Ouessant, ça a été pareil. Donc ces îles qui sont des îles où se racontaient des légendes, où les veillées remplaçaient la télévision d'aujourd'hui, et avec beaucoup d'efficacité, et avec infiniment d'à-propos. Donc ces îles étaient éclairées à la bougie, voire à la lampe à pétrole, ce qui produisait des effets extraordinaires sur les cloisons des maisons et entraîner une certaine impression de magie aussi. D'ailleurs, c'est la magie ouessantine n'a échappé à personne. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on ne peut pas aller à Ouessant sans se sentir sur une autre planète.
On parle d'habitude de vos livres dans cette émission, Yann Kefelec. Aujourd'hui, on parle plutôt de ceux de votre père, Un homme d'Ouessant, notamment.
Un homme d'Ouessant, qui est un livre absolument magnifique. Un homme d'Ouessant qui aurait pu s'appeler d'ailleurs Une femme d'Ouessant. Je pense qu'il faudrait le réimprimer sous le titre Une femme d'Ouessant, car il met vraiment l'accent sur la force du tempérament féminin, sur la bonté féminine à Ouessant, sur la magie l'énergie de la femme à Ouessant et sur son influence sur l'humain quel qu'il soit.
Alors on parlait de phares tout à l'heure, évidemment il y a des phares puissants à Ouessant, il y a même un musée du phare qui est très intéressant où l'on peut voir les lentilles, enfin tout ça est très spectaculaire. Le plus célèbre c'est celui du, je ne sais pas comment on prononce ça, le Créarch.
Vous le prononcez très bien, c'est le phare du Créarch, C-R-E-A-C'H, qui est le phare le plus puissant d'Europe.
Oui. Alors là, celui-là, il est absolument essentiel pour la navigation. Hein, parce que...
Il est essentiel pour la navigation et également essentiel pour la sécurité de la santé des eaux. Car c'est grâce à lui, quelquefois, que l'on peut détecter la présence de pétroliers poubelles, de navires poubelles en général, et les éloigner et ça, voilà, prévenir les accidents de mer qui, pourtant, n'ont pas épargné l'île, puisque l'Olympique Braverie, ce pétrolier, là, dans les années 60, a souillé l'île et toute la côte du Finistère durablement.
Alors, passons par-dessus l'île de Molène, dont vous parliez, avec tout cet archipel.
Une merveille.
Une merveille. Ah bon, alors ne passons pas.
Alors, une merveille, cette île Molène, puisque c'est l'estran, c'est la zone découverte par la marée. L'estran molénais, donc, est considéré comme le gisement laminaire le plus important d'Europe. C'est là que viennent se récolter les plus belles variétés d'algues dont font leur profil les cosmétiques et autres produits nécessaires à la santé humaine. Et c'est vrai que lorsqu'on se balade dans le patouillis de l'estran molénais à marée basse, on est rempli d'une impression d'iode proprement grisante et l'on est dans un état d'étourdissement que l'on n'a qu'une envie, c'est de retrouver une fois rentré à Paris.
Je retiens le patouillis de l'estran molénais. Et puis alors, bien sûr, puisque nous remontons maintenant, nous allons au nord de la Bretagne, il faut parler de l'île de Bas. Ça s'écrit Batz.
L'île de Bas, c'est encore une de ces îles qui, comme l'île de Bréa, bénéficie comme ça d'une influence du Gulf Stream.
Eh oui. Qui veut dire que les eaux sont plus chaudes en fait, hein. Et non seulement les eaux, mais le climat.
Les eaux ne sont pas tellement plus chaudes. Le Gulf Stream ne va pas jusque-là. Mais l'impression générale de la température, de la lumière et de la végétation est considérablement adoucie par la proximité du Gulf Stream. Alors, c'est surtout une île, c'est moins une île de marins qu'une île de, voilà, de cultivateurs.
C'est une île rurale, en quelque sorte.
C'est une île rurale, tout à fait, qui a un peu relayé la tradition du Johnny, là, celui, le vendeur d'oignons de Roscoff qui partait en Angleterre, vendre le Breakbeller, le casseur de sonnettes qui partait vendre ses oignons à la ménagère anglaise. Bah, fait un peu partie de cette culture-là, même si elle est tout de même connue, comme toutes les îles de Bretagne, pour avoir servi d'abri à des corsaires et à des pirates, et d'avoir vu toutes sortes de trafics comme ça se manigancer, voilà, dans ses anses et dans ses criques.
Alors, il y a, si l'on va encore un petit peu plus maintenant, on est en train de repartir vers l'est, il faut parler des sept îles.
Les sept îles aujourd'hui, par chance, on n'y débarque plus. C'était des îles qui, comme toutes les îles de Bretagne, il y a de cela des siècles et des siècles, c'était des îles qui étaient surtout habitées par des moines et qui appartenaient à des abbayes, des gens qui avaient besoin de retraite. Et effectivement, quelle plus belle et quelle plus assurée des retraites que celle d'une île. Aujourd'hui, ce sont surtout des réserves d'oiseaux. Ce sont des réserves ornithologiques absolument phénoménales. Et d'ailleurs, ce sont elles qui sont les premières touchées et qui nous brisent le cœur lorsqu'il y a des marées noires. D'où l'importance du phare du Créarch et d'où l'importance de cet éclairage incroyable dont bénéficie la côte bretonne grâce aux phares et balises. Mais lorsqu'il faut y aller, bien sûr, des îles, c'est la moindre des choses, il faut y aller en bateau. De préférence, un bateau que l'on a soi-même, parce que déambuler dans ces îles sans y débarquer, même si elles sont très dangereuses à naviguer, comme souvent les îles bretonnes, à cause des courants, eh bien, c'est une occasion, une aubaine proprement magique.
Oui, on parle beaucoup de la splendeur des paysages, mais il faut souligner le caractère particulièrement spécifique de la flore et de la faune, hein, bien entendu. Il y a une flore et une faune bretonne qui, dans ces îles, s'expriment.
Là aussi, c'est la présence du Gulf Stream qui nous vaut cette végétation tout à fait exceptionnelle. Ce qui n'avait pas échappé aux moines lorsqu'ils l'a peuplé, parce qu'ils avaient, c'était pas la chartreuse, hein, mais ils avaient tout de même imaginé un alcool. Malheureusement, sa recette s'est perdue aujourd'hui, qui combinait comme ça toutes sortes d'herbes vertueuses qui avaient sur la santé des effets miraculeux.
Alors nous avons quitté depuis longtemps le Finistère, on est là maintenant au nord des côtes d'Armor, avec cette roche rouge d'ailleurs un peu particulière et que l'on trouve particulièrement à l'île de Bréa, bien entendu.
L'île de Bréa, encore. D'ailleurs, on ne sait pas laquelle de ces îles préférées. Vous voyez, quand on les évoque, à chaque fois, je me dis c'est mon île préférée. Pas du tout, parce que Bréa, il n'y a pas de doute, c'est également une île qui mérite une sorte de préférence. C'est une île infiniment douce. C'est une île où on est comme en Irlande, mais une Irlande qui elle-même serait du côté de l'Espagne atlantique. C'est-à-dire, il y fait extrêmement chaud. Dès que le soleil se met à donner sur l'île au beau jour, on dégouline de sueur et on est émerveillé par cette lumière un peu feutrée, un peu poudroyante, qui est typique donc de cette île de Brea. Particulièrement belle à cause de sa roche rouge.
Puisque vous parlez de chaleur, de ce microclimat, je regrette qu'on n'ait pas, lorsqu'on était dans le Morbihan, évoqué quand même l'île aux Moines, hein, qui est au cœur de ce golfe absolument inouï. Mais enfin bon, il y en aurait tellement encore à évoquer.
Mais c'est vrai, vous avez raison, l'île aux Moines, le golfe du Morbihan, tout de même, c'est une réserve d'îles qu'on ne peut pas ne pas citer quand on parle des îles de Bretagne.
Évidemment. Merci beaucoup Yann Kefelec, vous nous avez fait rêver. Le meilleur moyen de prolonger le rêve, c'est d'aller feuilleter votre dictionnaire amoureux de la Bretagne. D'ailleurs, on ne peut pas le feuilleter puisque quand on le prend où que ce soit, on est obligé ensuite de poursuivre. Tous les articles se suivent, s'enchaînent dans une espèce de tumulte tout à fait océanique. Et ce dictionnaire amoureux de la Bretagne, il va paraître en version illustrée le 29 octobre prochain. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Loïc sur le site internet europe1.fr. Voilà la question du jour. Pourriez-vous nous raconter l'origine des aimants et de leur utilisation?
Ah, ça, c'est une histoire intéressante. Dès l'Antiquité, l'aimant a été découvert dans sa forme naturelle qu'on appelle la magnétite. Ses propriétés étaient, disons-le, associées à la magie à l'époque et on en prêtait à l'aimant toutes sortes de pouvoirs particuliers. C'est le philosophe grec Théophraste qui a fait la première classification conséquente des minéraux de l'histoire et dans De Lapidibus, il précise la propriété la plus étonnante et la plus grande de l'aimant. Alors on se dit, ça va être évidemment, c'est d'attirer les métaux. Non, c'est de faire accoucher, disait-il. Et le juriste et universitaire américain Daniel Borstein parle d'autres croyances antiques autour de l'aimant. On pensait que cet aimant avait toutes sortes de qualités. Une pierre d'aimant placée sous l'oreiller d'une épouse infidèle avait le pouvoir de lui faire avouer sa faute, figurez-vous. C'est bon à savoir, ça, faites l'expérience. Un seul fragment suffisait à guérir toutes sortes de maux et même à servir de contraceptif. Là, je vous déconseille néanmoins cet emploi. L'ensemble de croyances liées à l'aimant, on appelle ça encore aujourd'hui le magnétisme minéral. Il y a des gens qui défendent les propriétés quasi curatives de l'aimant, mais en tout cas, ces croyances-là, elles ont été littéralement balayées par la découverte du nord magnétique et l'usage qu'on s'est mis à faire de l'aimant pour trouver le nord. C'est en Chine qu'on trouve la première référence à un instrument d'orientation dans l'obscurité de la nuit. On est sous la dynastie Song, donc au milieu du XIe siècle. Il va falloir quand même quelques siècles pour que tout ça arrive jusqu'en Europe. Mais vous savez que, au tournant du XIVe, XVe siècle, l'utilisation raisonnée de l'aimant à travers la boussole va complètement transformer notre civilisation. Il va lui permettre de se lancer dans des navigations au long cours, donc des explorations, donc une découverte et bientôt une conquête de la planète entière. C'est vous dire l'importance historique, somme toute, de cet aimant. Alors, un tournant a été franchi au XVIIe siècle parce que au XVIIe siècle, on s'est mis à fabriquer de l'acier trempé. Ça permet de produire des aimants permanents, des aimants qui sont beaucoup plus faciles à modifier, à travailler que les aimants naturels, beaucoup moins coûteux parce qu'ils n'ont plus la même rareté. Et puis surtout, et ça n'est pas la moindre des qualités d'un aimant moderne, si je puis dire, c'est que ses vertus sont permanentes.